Bonjour, bienvenue dans un monde où on chasse à court comme d'autres lisent l'équipe en terrasse par habitude, presque par réflexe de caste. Un monde où l'on porte le kilt comme certains la banane en cuir par respect du rituel plus que par souci esthétique. Un monde où le protocole verrouille vos moindres faits et gestes plus sûrement que le cadenas de votre vélib. Un monde où chacun de vos mots est scruté, évalué, sous-pesé, ausculté, analysé 10 fois avant qu'il ne puisse sortir de votre bouche. Imaginez que sur votre tête pèse une couronne et sur vos épaules le poids d'un royaume. C'est lourd, hein? Et pourtant vous aimez. Et peut-être même que dans un coin de votre tête, vous en rêvez un peu, juste comme ça, juste pour voir ce que ça fait d'avoir le pouvoir. En tout cas, vous la regardez, cette couronne, et vous la regardez de près. Marquez, elle n'est pas loin de nous, hein, juste de l'autre côté de la Manche, nos drôles de voisins britanniques avec leur bizarrerie monarchique. La vérité, c'est qu'on n'en rate pas une si on pense au déluge d'images qui tournent en boucle sur nos télévisions à chaque naissance princière, à chaque anniversaire royal, et ce, depuis que la télévision existe. Alors ce monde-là, forcément, c'est aussi un peu le nôtre. Ça le sera complètement ce matin et jusqu'à 10h. Oui, car il bouge, ce monde, malgré tout, il bouge. Alors, c'est pas la révolution. Néanmoins, il existe ces signes d'une mutation en cours. Bienvenue dans un monde où une reine de 91 ans est en passe de devenir aussi cool que Bowie, où un prince en veste de tweed pourrait presque se greffer une épingle à nourrice dans le nez. Bienvenue au royaume de la punkitude and God Save the Queen.
France Inter, dans quel monde on vit ? Julia Foyce.
Dans quel monde on vit, c'est le monde d'aujourd'hui raconté par ceux qui le vivent, c'est leur regard sur vous, sur nous, sur ce qui fait qu'on est nous, qu'on interroge et qui nous nourrit, gourmand que nous sommes. Et aujourd'hui, pour nous glisser sous la couronne britannique, j'ai le plaisir de recevoir la journaliste Isabelle River. Bonjour.
Bonjour.
Spécialiste de la famille royale, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, dont le dernier, Charles et Camilla, une histoire anglaise, est publié chez Fayard. Depuis près de 20 ans, donc vous enquêtez au plus près de cette famille aussi médiatique que secrète, voire totalement mutique. Autant dire que vous avez appris le protocole par cœur, et Dieu sait s'il est pointilleux. Alors pardon, mais qu'est-ce qui vous a pris? Comment on tombe dans la famille royale?
Je pense qu'on tombe dedans toute petite, ouais. Un peu comme Obélix était tombé dans le chaudron de potions magiques quand il était enfant. Bon, moi, c'est un peu la même chose. Ma grand-mère était une lectrice de Point de vue, de Jour de France. Elle me parlait de Grâce de Monaco comme elle était belle, de la princesse Margaret comme elle était triste et de la reine Elisabeth comme elle était formidable. Et ça m'est sans doute resté.
Oui, jusqu'à aujourd'hui. Après une biographie sur la reine Elisabeth, et on va en reparler, hein, dans cette émission. Vous vous intéressez donc à Charles et Camilla. Pourquoi eux? Qu'est-ce qu'ils ont?
Pourquoi eux? Alors, qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres? D'abord, Charles est l'héritier du trône. C'est vrai qu'on a souvent tendance à l'oublier, oui. Puisque, voilà, pour beaucoup de gens, et c'est vrai que c'est très surprenant. Moi, ça continue de m'étonner. Beaucoup de gens imaginent que le prince William, l'actuel duc de Cambridge, succédera directement à sa grand-mère. Or, non, il n'en est rien à la seconde.
Ils ont quand même un petit peu du mal à exister, les deux, entre une reine qui bat les records de longévité et un couple qui a été William qui prend très très bien la lumière. Ils sont un petit peu coincés, là, non?
C'est un homme qui s'est toujours retrouvé, oui, coincé entre des figures que le grand public et les médias ont toujours jugées plus charismatiques que lui. Donc il s'est longtemps retrouvé, effectivement, coincé, comme vous dites, assez justement, entre sa mère, reine mythique, sa première épouse Diana, qui avait une espèce de charisme incandescent. Ouais. Aujourd'hui, il se retrouve coincé de nouveau, mais cette fois toujours entre sa mère et son fils aîné, le prince William.
Alors, vous racontez dans ce livre que ça peut bouger, du moins vous participez peut-être même à une entreprise de réhabilitation de ce couple-là. Vous évoquiez Diana à la fin du mois d'août, on va commémorer les 20 ans de sa mort. Est-ce qu'il va y avoir une Kate Mania, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une Kate Mania proche de la Diana Mania qui empêcherait une Camilla Mania? Ou est-ce qu'il peut y avoir une Camilla Mania tout à coup?
Non, il n'y aura pas de Camilla Mania.
Elle est quand même moins glamour, elle est quand même moins...
Ce qui a beaucoup joué dans la Diana Mania et ce qui joue beaucoup dans la Kate Mania, c'est effectivement la beauté de ces deux jeunes femmes, leur jeunesse...
Bah quoi, Camilla, elle est moche?
Leur ascension fulgurante, etc. Camilla... Elle a depuis longtemps, elle est présente sur la scène officielle publique depuis longtemps, présente dans la vie de son époux depuis encore plus longtemps. Et puis, c'est vrai que pendant, si vous voulez, il y a une légende, il y a eu une espèce de roman qui s'est fait pendant 17 ans.
Mais il y a un mais sur Camilla, visiblement.
Non, il n'y a pas de mais. Aujourd'hui, les Britanniques notamment ont appris à connaître et à apprécier, en fait, la duchesse de Cornouailles. Donc, son image a radicalement changé. Rien n'est totalement réglé, puisque c'est vrai que le souvenir des années Diana est toujours présent, particulièrement cette année où on commémore les 20 ans de sa disparition. C'est c'est l'une des raisons aussi, hein, cette Diana Mania est ce qui empêchera toujours qu'il y ait une Camilla Mania.
Qu'est-ce que ce couple de Charles et Camilla dit de la Grande-Bretagne d'aujourd'hui ?
Alors, il est emblématique d'une certaine anglitude. Ouais. Il y a une forme d'excentricité, d'humour. Chez elle,
L'humour chez elle saute pas aux yeux ou aux oreilles.
Et pourtant, c'est une femme qui est très drôle.
Ouais.
Alors, c'est pas forcément effectivement ce que les membres de la famille royale affichent en premier dans les engagements officiels. Donc, bien sûr, c'est pas ce qu'on voit en premier. Ce qui charme, ce qui surprend aussi beaucoup tout ce qui l'approche, c'est cette espèce de bienveillance qu'elle a, cette chaleur, il y a une forme de spontanéité chez elle qui est vraie. Un brin d'excentricité, lui, est un brin excentrique aussi.
En quoi, par exemple?
Il a une sorte de style de vie qu'il a hérité de sa grand-mère, la reine-mère, pour qui il avait une adoration. C'est vrai que la reine-mère avait un côté profondément anglais, profondément excentrique, dont lui a hérité, oui, c'est certain.
Alors, on va pouvoir rentrer dans cette intimité à tous les deux grâce à vous pendant cette émission. Mais sur la monarchie en elle-même, elle semble quand même indémodable, et c'est quand même extraordinaire, elle pourrait être anachronique, eh bien non. Les sondages se suivent et se ressemblent depuis des décennies, les Britanniques, pour les trois quarts, la soutiennent sans hésitation. Et vous l'écrivez dans votre livre, elle est le gin tonic dont le Royaume-Uni a besoin. C'est-à-dire qu'elle le réveille ou qu'elle lui donne la gueule de bois?
Donc je pense qu'elle, en tout cas, elle le tient debout, elle tient le Royaume-Uni, la couronne, c'est ce qui fédère autour d'une seule et même force. L'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord, l'Angleterre, voilà en tout cas pour le moment.
Mais le rapport avec le gin tonic?
Ça, c'est parce que vous essayez de me faire dire que...
Rien du tout, je n'essaye rien, jamais.
Vous faites me faire parler de la passion de la reine Elisabeth pour le gin du bonnet, comme l'avait sa mère. Voilà, bon, ça, c'est vrai, c'est un goût qui est réel, qui fait aussi partie de leur charme, de leur personnage.
En tout cas, un sens de la fête qu'on ne soupçonnait pas et qu'on découvre en vous lisant. On va s'en jeter un petit... Mais non, pas à 10h du matin, un petit ginto. En tout cas, on va prendre l'Eurostar, casque sur les oreilles, on y est déjà, quelques notes, une voix, tout droit venue de Manchester, c'est celle de Liam Gallagher.
I'm not afraid to die.
Wall of Glass, Liam Gallagher qui signe là son grand retour après 8 années de silence ou presque. Première pépite d'une programmation musicale so British, préparée rien que pour vous par l'ami Joe. Merci à lui. Et merci à vous qui nous suivez. Si vous voulez vous rapprocher un petit peu, d'ailleurs, venez, il y a de la place. Écrivez-nous par mail dans quel monde on vit à radiofrance.com ou bien sur Twitter avec le hashtag dans quel monde on vit. Et c'est le cœur de la couronne britannique qui bat dans vos oreilles aujourd'hui. On s'y glisse avec vous, Isabelle Rivet. Enfin, quand je dis on s'y glisse, ça ressemble plutôt au GR20, hein, niveau fluidité, tellement la famille royale est difficile d'accès. Comment est-ce que vous, vous avez travaillé ?
Alors en fait, l'accès a commencé il y a plusieurs années, lorsque j'ai entamé mes recherches sur en prévision d'une biographie d'Elisabeth II, que j'écrivais pour son jubilé de diamant, les 60 ans de règne. Et en fait, là, pour ce grand type d'événement, en fait, il arrive que le palais soutienne des livres étrangers.
Ouais.
Et donc là, ils m'ont invité à venir les voir, à m'expliquer mon projet, ouais. À leur expliquer mon projet, pardon. Et ils ont accepté de le soutenir. Donc j'ai suivi Elisabeth II pendant un peu plus de 3 ans.
Ouais.
Le livre est sorti. Ensuite, j'ai eu envie de faire un Charles et Camilla parce que, notamment en cours de toutes ces recherches que j'avais menées, de tous ces voyages que j'avais fait en Grande-Bretagne et à l'étranger, en suivant Elisabeth II.
On peut échanger en direct avec eux. Tout n'est pas si verrouillé qu'on le dit.
C'est beaucoup, d'abord, ça c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup ouvert. Hein,
ouais.
Oui, ça n'a absolument rien à voir. Le palais beaucoup moins sur la défensive et d'ailleurs le reconnaît lui-même que pendant justement toutes les années, Diana, qui ont été vraiment les années de plomb
terrible, ouais.
En termes de relations entre le palais et les médias. Et c'est vrai que c'est cette biographie d'Elisabeth II qui m'a ouvert les portes de Clarence House, qui est la résidence londonienne et le QG de Charles et Camilla.
Alors, avec vous, on va s'en approcher de ce Clarence House. On va y aller avec vous en images d'abord. Alors, la photo que vous avez choisi de nous montrer pour nous donner un instantané, un premier aperçu de la famille royale, en général de Charles et Camilla en particulier, eh ben, c'est pas une photo d'eux, c'est une photo de la duchesse de Devonshire, Deborah Mitford. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette photo et nous rappeler qui était Deborah Mitford ?
Alors Deborah, elle était la dernière, la cadette des sœurs Mitford, qui ont toutes été chacune à sa manière des figures de légende. J'aime beaucoup cette photo. Elle montre la duchesse de Devonshire en robe du soir, en robe balmain, un panier accroché au poignet gauche et en train de nourrir ses poules, des poules pour lesquelles elle avait une passion et dont elle m'avait longuement parlé lorsque je l'avais rencontrée à Paris, rue de l'Université, dans un appartement qu'occupait autrefois l'une de ses sœurs. Donc elle m'avait parlé longuement de la personnalité de chacune d'entre elles, hein, de chacun de ces volatiles. C'était une femme vraiment à l'excentricité chevillée au corps et c'est surtout une femme qui pendant longtemps avait abrité les amours clandestines de Charles et Camilla au manoir de Chatsworth. Voilà, je ne sais pas si ça dit quelque chose à nos auditeurs. Le manoir de Chatsworth, c'est une sorte de petit Versailles à la campagne. C'est le petit Versailles britannique. Quand je dis petit, c'est une manière de parler parce que
c'est une masure.
C'est immense. Et voilà, et c'est là qu'elle les avait abritées. Et si j'ai choisi cette photo, c'est aussi parce que elle évoque une pirouette de l'histoire, qui est une pirouette de l'histoire incroyable dans le parcours, dans l'ascendance, en fait, de Charles et Camilla, puisque l'arrière-grand-mère de Camilla, Alice Capel, a autrefois été la maîtresse et surtout le dernier grand amour du roi Édouard VII, qui était l'arrière-arrière-grand-père du prince Charles. Et Édouard VII et Alice ont été les amours d'Edward VII et Alice ont été, en leur temps, abrités aussi à Chatsworth par les anciens ducs de Devonshire. Donc c'est une histoire qui se répète.
Mais c'est aussi pour ça qu'on aime suivre la saga de la famille royale, parce qu'il y a tout le sel que peuvent donner aussi les amours clandestines.
Oui,
c'est 34 ans quand même chez Charles et Camilla.
Oui, mais c'est surtout ce qu'on croit toujours, enfin souvent, hein, à tort, c'est que ces personnages sont ennuyeux. En réalité, ils sont tous d'une richesse incroyable. Et moi, je garde un souvenir très, très précis et très, très fort de la duchesse de Devonshire me regardant avec ses grands yeux bleus, sa chevelure de neige, un peu comme la reine Elisabeth, me regardant et me disant longue vie à tout ce qui est interdit. J'ai trouvé ça follement réjouissant, follement sympathique.
Alors, si cette histoire devait avoir une saveur, un goût, c'est une limonade à l'elderflower, dites-vous, mais encore.
Alors, l'elderflower, ce sont des fleurs de sureau. Et vous m'avez demandé, en fait, à quel goût était associé mon aventure aux côtés de Charles et Camilla. Bon, c'est cette limonade que j'ai goûtée pour la première fois chez lui, à Highgrove. Et j'ai développé une sorte d'addiction à la limonade à Elderflower et qui m'a accompagnée tout au long de la rédaction de ce livre. Voilà, maintenant vous savez tout.
Il n'y a plus dangereux. Non, on ne sait pas tout. Il y a un parfum qui vous rappelle à eux, c'est celui d'une rose jaune. Dites-nous quelle rose.
Alors, ce sont des roses jaunes orangées, de très belles roses jaunes. Alors, les jardins de la Grove sont des jardins immenses que j'ai eu la chance de pouvoir visiter avec le jardinier en chef du prince Charles, qui est une femme, Debs Goodenough, qui est une femme incroyable. Et dans un coin du jardin, il y a ce qu'on appelle la porte Chande. Chande, c'est le nom de jeune fille de Camilla, et c'est une porte qui a été surnommée ainsi en hommage à son frère, Marc, pour lequel elle avait vraiment une tendresse toute particulière. Et c'est une porte qu'ils ont choisi tous les deux de faire couvrir de ces roses jaunes orangées avec un parfum capiteux incroyable. Et elles abritent ces roses, une sorte de sculpture en bronze qui représente une poitrine de femme que Marc Chante, donc le frère de Camilla, avait offert à Charles. Il lui avait rapporté d'Inde, je crois. Voilà, c'est un jardin qui est truffé de souvenirs personnels.
De ce genre-là ?
Pas que. Non, il y a des choses beaucoup plus... moins sexy.
Vous voyez, moi, ça suscite des images tout de suite. Un verre de limonade, un parfum de rose jaune, des poules et une robe du soir, le tout face à l'océan, peut-être. L'océan version Dominique A, c'est la bande-son qui a accompagné votre enquête, Isabelle Rivière, une chanson que vous partagez avec nous ce matin. Pourquoi celle-ci ?
D'abord parce qu'elle parle d'environnement. Et que on sait à quel point le prince Charles peut être un défenseur de l'environnement et notamment des océans pour lesquels il a encore récemment fait campagne. Et puis il y a une forme d'intellectualisation, du rapport à l'environnement dans cette chanson qui m'évoque aussi l'intellectualisation de la relation que Charles entretient avec le monde qui l'entoure.
Eh bien, on l'écoute.
On l'entendait de loin s'écraser contre terre, écumé de colère d'être ainsi rejeté, au pied de pauvres dunes sur d'indignes rochers, lui pourtant si puissant, pourtant si volontaire. On courait sur les dunes et il apparaissait, et parfois il daignait nous couvrir d'écume. Un de ces jours bleu-gris où sa colère montait contre la terre et les humeurs de la lune, l'océan. Il n'en finissait pas comme la vie lointaine.
Alors, je suis vraiment désolée, Isabelle Rivière, je vais devoir vous ramener de notre côté, du côté du studio de l'Agora, de la maison de la radio, où sont à partir un peu là. Votre Charles, à vous, c'est qui ?
Mon Charles à moi. Bon, alors, mon Charles à moi.
Mon Charlie.
Alors, voilà. Ce qui m'a frappé le plus, en fait, ce sont plutôt des scènes, vous voyez, des bribes de choses dont je me souviens, des images. Et il y a cette image de lui à Clarence House, c'était quelques jours avant Noël, et il avait choisi de réunir chez lui les leaders, les chefs de toutes les communautés religieuses de Grande-Bretagne, pour favoriser le dialogue entre elles, et on sait à quel point ce type d'initiative peut être important à notre époque. Et on voyait cet homme souriant, plaisantant avec tout le monde, prenant le temps de discuter avec chacun. Je ne sais pas pourquoi cette image m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marquée.
Il a une image assez froide, voire compassée. Vous racontez dans votre livre l'itinéraire d'un petit garçon sérieux, voire grave. Et en même temps, on le découvre aussi très, très bon vivant. Par exemple, il organise, paraît-il, des fêtes mémorables.
C'est quelqu'un qui sait recevoir. La reine-mère savait recevoir et son petit-fils a hérité d'elle ce talent-là. Notamment les soirées qu'il a organisées. Il avait organisé une soirée pour les 50 ans de Camilla qui est restée dans les annales sur le thème des mille et une nuits où des tentes avaient été dressées. Enfin, voilà, il fait toujours les choses en grand dans ces cas-là.
Et puis c'est quelqu'un d'assez moderne finalement, c'est-à-dire que c'est lui qui a poussé le reste du palais à se mettre aux réseaux sociaux, à se mettre au 2.0. C'est le premier, je crois, à avoir eu un site
Internet pour communiquer. La première, c'est Elisabeth II.
Ah, donc elle est quand même...
Elle a été la première à lancer
son
site Internet, c'est Elisabeth 2.0. Charles lui a emboîté le pas assez rapidement. Charles est un modernisateur dans l'âme, et d'ailleurs on sait que... On se doute qu'en tout cas qu'après son avènement, après son accession au trône, beaucoup de choses vont changer dans l'organisation de la monarchie.
Dans quel sens? Vers plus d'ouverture, vers plus de légèreté dans le protocole, vers...
Il y a déjà beaucoup d'ouverture, beaucoup plus d'ouverture que par le passé. On pense qu'il va alléger un peu le faste qui entoure la monarchie. Alors il y a des partisans du faste et d'autres qui ne le sont pas. Lui prône aussi une réduction, en fait, une assez drastique du nombre de membres de la famille régnante. C'est-à-dire qu'il souhaite que la famille régnante soit désormais réduite au monarque, au souverain régnant, à ses enfants et petits-enfants directs.
Voilà, il y a beaucoup de choses. Quelque chose de plus dans l'air du temps.
Quelque chose de plus simple, quelque chose de plus moderne, de plus léger en termes de dispositifs aussi.
Alors, c'est quelqu'un qui aime les bains de foule. Vous racontez que, et puis on le sait, il prend des selfies avec la foule.
Ça, c'est récent.
Mais n'empêche qu'il le fait.
Oui, il le fait.
Deux questions en une, pardon. Est-ce qu'il aime être prince et est-ce qu'il aimera être roi, si roi il est, bien entendu?
Alors, Charles aimera être roi et Charles sera un excellent roi. Mmh. Ce sera un roi sur le tard. Ce sera
Oui. Mais je crois que c'est le record de longévité dans l'antichambre du pouvoir, c'est ça?
Oui, il sera l'homme le plus âgé à avoir, dans toute l'histoire de la monarchie britannique, à avoir accédé à être monté sur le trône de 67.
Il a 68 ans aujourd'hui, c'est ça? Et que la reine en a 80
ans? Il aura 69 ans au mois de novembre.
C'est pas pour maintenant, parce que la reine est quand même en forme.
La reine est très en forme. Elle a tout de même 91 ans. Donc, on peut penser que Charles sera encore prince de Galles pendant quelques années. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est aujourd'hui l'héritier du trône le mieux formé au monde, le plus préparé à assumer cette fonction. Et celui qui a les idées, les plus précises de ce qu'il voudra en faire.
Alors, du côté de Camilla, maintenant, juste un mot peut-être sur elle. On a l'impression que ça y est, la famille royale l'a adoptée. Elle fait des déplacements officiels en solo. Donc, c'est oublié ce passé de briseuse de ménage, de femme divorcée, celle qu'on disait essentiellement mal fagotée, celle qu'on disait paresseuse, celle à qui on prêtait tous les défauts possibles et imaginables.
Je n'aime pas trop cette étiquette de briseuse de ménage. Non, je sais bien. Mais disons que pendant des années, il a fallu... Les médias, c'est vrai, dont je fais sûrement partie, j'ai sûrement ma... ont inventé un... Il y a eu le roman, en fait, le roman de Charles, Diana et Camilla, pour faire en sorte que ce roman marque les esprits. Il a fallu créer d'un côté le camp des bons, de l'autre le côté des méchants. Ouais. L'histoire est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus complexe.
Un peu comme on le ferait avec n'importe quel couple, pour que ça se passe comme ça.
Oui, l'histoire est quand même beaucoup plus compliquée que ça.
Bien sûr. Comme souvent d'ailleurs.
Oui. Charles et Diana, il y avait des sentiments entre Charles et Diana lorsqu'ils se sont mariés. Simplement, ils étaient probablement trop différents l'un de l'autre. Il y avait trop de choses qui les séparaient pour que ce mariage puisse être une réussite.
Mais on a l'impression que, aujourd'hui, donc à la fin de ce mois d'août, on va commémorer, je le disais tout à l'heure, les 20 ans de la mort de Lady Diana. On a l'impression que les années passant, le deuil se fait et que petit à petit, on soulève un coin du voile et qu'on commence à rééquilibrer un petit peu les rôles et qu'on s'autorise à écorner un peu le mythe Diana, à réhabiliter un peu Charles, à réhabiliter un peu Camilla, que c'est en train de... Ça se fait doucement, mais sûrement.
On ne cherche pas à écorner le mythe, simplement.
C'est pas qu'on cherche à écorner, mais on s'autorise.
La parole se libère.
Ouais.
Et donc l'histoire est racontée sans doute telle qu'elle aurait toujours dû être racontée.
Et Camilla, dans tout ça, on s'autorise à bien l'aimer. C'est plus forcément la méchante.
Camilla n'a jamais été la méchante. Camilla n'est, si vous voulez, dans l'esprit de beaucoup de gens, en tout cas, Camilla n'est plus la méchante et heureusement. En tout cas, on apprend à découvrir, à connaître cette femme qui a longtemps été très, très, très méconnue.
Ah, Camilla, you really got me.
You really got me now. You got me so I don't know what I'm doing now. Oh yeah, you really.
de rock british à l'état pur, tube indétrônable lui aussi, 1964, c'était The Kinks pour vous sur France Inter, et avec nous ce matin là, juste derrière la vitre du beau studio de l'Agora, à la réalisation Marion Lelay, à la technique Serge Viguier, sans oublier bien sûr Valentin Pérez aux anges ce matin, tant qu'on parle couronne on est bien, mais également Mégane Fleury, Rose Bernard et Elisa Bondarenko, pour qui Charles et Camilla n'ont désormais plus de secrets.
Dans quel monde on vit sur France Inter.
Isabelle Rivière, ça vous aura peut-être, je dis bien peut-être, échappé, mais la chanteuse Rihanna s'est déguisée en Elisabeth II sur Instagram le 21 avril dernier pour l'anniversaire de la reine, seins nus sous un tailleur coloré. Oui, oui. Et puis il y a cette couverture du Vanity Fair français du mois de juillet avec la reine en une et en titre Elisabeth II, reine du cool. Alors ça y est, on y est, à défaut d'être encore totalement punk, Elisabeth II est cool aux USA, comme en France, comme un peu partout.
Alors Elisabeth II, je vais peut-être vous surprendre, mais Elisabeth II a toujours été la reine du cool. Pour moi, Elisabeth II est une femme cool. D'abord, quand on voit le clip qu'elle a tourné pour l'ouverture des Jeux Olympiques de Londres, où on la voit sauter, soi-disant, enfin, d'un hélicoptère, en robe à froufrou, saumon, et puis... arpenter le grand corridor du palais de Buckingham avec Daniel Craig alias James Bond sur les talons. Moi, je dis qu'on est cool. Et puis, pour l'avoir suivi donc pendant plusieurs années, je peux vous dire aussi que c'est une femme qui a beaucoup d'humour et d'humanité. Et on parle souvent de son rapport un peu difficile aux médias, mais je vais vous raconter une histoire. Il y avait, pendant un voyage officiel au Canada, un journaliste britannique dont la femme était en train d'accoucher, et pour qu'il puisse rentrer plus vite et être plus vite auprès de sa femme et de son bébé, elle lui a proposé de faire le voyage avec elle à Londres, cool, dans son avion. Voilà, si ça c'est pas être cool.
N'empêche que l'image qu'on en a pas toujours été celle-là. À la fin des années 90, hein, je vais rappeler juste deux, à la fin des années 90, le très conservateur Daily Mail qui se demande si elle devrait pas abdiquer. 20 ans plus tard, au moment de son jubilé, ça c'était l'an dernier, le très républicain Guardian titre Elisabeth II est une bonne reine, les monarchistes ont gagné entre les deux. Qu'est-ce qui s'est passé, Isabelle Rivière?
Alors, je suppose que la fin des années 90 à laquelle vous faites allusion, c'est l'année 1997 et les mois qui ont suivi la disparition de Diana. C'était effectivement, depuis que l'invention des sondages existe en Grande-Bretagne, dans les années 60, la monarchie est le sujet qui a le taux de popularité, d'opinion favorable le plus stable. Ouais. C'est un
ça,
taux
c'est
de
fou, hein.
Voilà, de popularité.
Donc
qui
c'est
tourne
indémodable, jamais
qui est entre 75 et 80%. La seule chute, entre guillemets, de popularité est intervenue effectivement en cette année 97, qui a été une année très difficile, très douloureuse, et pour le Royaume-Uni, et pour la famille régnante globalement. Il y a eu beaucoup d'incompréhension à ce moment-là. En même temps, quand on prend un peu de recul sur les événements de l'époque, on peut aussi se dire que tous ces cris qui étaient lancés en direction du palais et de la reine, ces couvertures de journaux, parlez-nous, mam, sortez de votre silence, etc. Ça n'était finalement qu'une manifestation de plus de cette affection qu'ont les Britanniques et surtout de ce mouvement spontané qu'ils ont chaque fois qu'ils sont dans la douleur, dans le chagrin, dans l'affliction, de se tourner vers cette figure tutélaire, vers ce roc qu'a toujours été Elisabeth II. C'est vrai que le palais a été pendant des années, après l'accident, un peu sur la défensive. Les relations avec les médias notamment ont été très difficiles. Et puis tout a changé au moment du jubilé de 2002. Je me souviens très bien de cette discussion que j'avais eue avec des conseillers particuliers de la reine qui m'avaient dit, on pensait pour le 50e anniversaire du règne qu'il n'y aurait personne dans les rues.
Ouais.
Or, ça a été vraiment une manifestation de liesse incroyable à l'époque.
Sauf que là, ça va au-delà des citoyens britanniques et au-delà des monarchistes. Donc, cover girl sur le Vanity Fair de juillet. Et puis, là, elle vient de faire mieux encore cette année. Si. La reine Elisabeth II, la nouvelle star du géant Netflix, The Crown, série unanimement saluée par la presse et par le public, met en scène pour sa première saison les jeunes années d'Elisabeth II. Et pour en parler, nous recevons Pierre Langlais, spécialiste série à Télérama. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez vu cette série, Isabelle Rivière?
J'ai vu les trois premiers épisodes.
Alors,
donc je ne peux vous parler que des trois premiers épisodes. J'ai trouvé qu'il y avait des choses très bien. Je trouve que l'actrice qui incarne Elisabeth II est très bien. J'ai trouvé l'épisode de l'accession au trône, enfin de l'avènement au Kenya, la reconstitution historique des événements, qui est très très juste. Je me souviens que Pamela X, qui était avec la reine, avec la princesse Elisabeth et la nouvelle reine, donc au Kenya, à ce moment-là, m'avait raconté les événements. Et c'est très très bien retranscrit par la série. En revanche, après, il y a des choses totalement romancées. Mais ça, j'imagine que C'était difficile de faire autrement.
Alors justement, on va pouvoir en parler, Pierre Langlais. Mais d'abord, sur le personnage d'Elisabeth II, est-ce que c'est un bon personnage de série ?
Certainement, dans la mesure où, comme on l'a dit pendant toute cette émission, il y a un mélange de fiction et de réalité dans la perception qu'on peut en avoir. Alors votre travail, Isabelle Rivère, c'est d'essayer de nous montrer un peu la réalité, mais à quel point finalement la réalité que vous pouvez nous montrer n'est pas aussi une construction narrative de la famille royale, à quel point on arrive à percevoir vraiment la réalité. Donc de fait, c'est
vous
un personnage...
Vous voulez dire qu'on peut tout imaginer ?
Bon, on peut tout imaginer, c'est-à-dire que le scénariste va s'appuyer sur des faits qui sont eux-mêmes des faits qui possiblement ont été écrits par la légende, par le roman national, parce qu'incarne la reine. Et donc forcément il y a un flou qui est fascinant, qui
laisse comme une page blanche en fait.
Oui, alors blanche peut-être pas, il y a quelques faits sur lesquels la série va s'appuyer, notamment
mais sur l'intime de la reine, il y a une
sur
page
l'intime
blanche.
De la reine, il y a quelques textes, hein, il y a quelques livres, j'imagine que les livres que vous avez écrits sont notamment des éléments d'information.
Bien sûr.
Mais ce qui est sûr, c'est que il y a surtout enfin moi quand j'ai parlé avec les scénaristes, ils m'avaient dit bah en fait nous on se base sur ce qu'on peut, sur ce qu'on a pu lire, etc.
Ouais.
Mais encore une fois, à quel point ces livres sont une partie du roman national ou sont la stricte vérité, après on peut prendre toute la liberté qu'on veut.
Elle est toute jeune dans les 10 premiers épisodes de la saison 1, devenue reine presque par accident, elle doit apprendre très vite la rigueur du protocole. On écoute un extrait de la série, elle est avec Winston Churchill.
Le Premier ministre, votre majesté.
Votre majesté.
Asseyez-vous, monsieur le Premier ministre. Voulez-vous du thé ? Ou quelque chose de plus fort, peut-être ?
Madame, personne ne vous a expliqué. Le souverain n'offre jamais au Premier ministre de rafraîchissement, ni de chaise. Ce protocole a été mis en place par votre arrière-arrière-grand-mère de façon à ce que nous restions debout comme des conseillers privés. La perte de temps est un très grand péché.
Elisabeth II se retrouve catapultée reine à 26 ans suite à la mort de son père. Est-ce que ça, c'est des années difficiles pour Elisabeth Rivère ? Il faut qu'elle apprenne le protocole, qui est gigantesque, il faut qu'elle l'apprenne très vite. Est-ce que c'est des années compliquées pour elle ?
Alors, ce qui est difficile, d'abord, c'est de devoir mettre de côté sa vie d'épouse et de jeune maman, hein, puisque sa vie de famille, en fait, cède la place à ces nouvelles années qui s'ouvrent, qui sont des années d'apprentissage. George VI, son père, est mort trop jeune pour avoir eu vraiment le temps de la former à ce qu'il attendait. Et donc c'est effectivement Winston Churchill qui va s'occuper de ça, qui va tout lui apprendre. Mais pas tellement en termes d'étiquette et de protocole, ça ce sont des choses qu'elle maîtrise parfaitement depuis l'enfance, mais c'est plutôt en termes constitutionnels.
Ouais.
Là, il va lui falloir effectivement apprendre à maîtriser les ficelles de son nouveau métier.
Comment est-ce que les scénaristes de la série Pierre Langlais ont pu la rendre sympathique ? Comment ils ont pu susciter l'empathie du téléspectateur sur un personnage comme celui-là ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est une mère qui doit mettre sa vie privée de côté ? Est-ce que c'est par là qu'on passe ?
Alors j'espère qu'ils n'ont pas cherché à la rendre sympathique, sinon ça serait une hagiographie. Et d'ailleurs,
du moins à susciter l'empathie, à la rendre humaine, à l'humaniser.
Faire un bon personnage de série télé suffit à l'humaniser. Ce qui est sûr, c'est que si on devait résumer, faire des raccourcis, on dirait que The Crown, c'est l'histoire d'une femme avant toute chose. Et c'est une plongée dans l'intimité. Les premiers épisodes en particulier nous font bien comprendre que ce qui est mis en avant, alors il y a la relation à Churchill, etc., mais c'est aussi sa vie de couple avec Philippe et comment il y a des tensions entre lui qui voudrait continuer à vivre un certain type de vie, voler, faire de l'avion, etc. Elle dit, attention, il va falloir que tu fasses gaffe, il va falloir que tu fasses ceci, cela, et lui doit rentrer dans le rang. Et donc, forcément, c'est les tensions intimes qui pourraient être dans n'importe quel couple. Alors, évidemment, grossi dans un cadre très particulier.
C'est pas tellement grossi, hein, puisque les tensions étaient réelles à l'époque. Lui a très mal vécu cette accession.
Grossi par rapport à nous autres.
Oui.
Et puis, Pierre, c'est aussi une très belle fresque historique, hein, cette série. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même, derrière la reine, il y a des décennies d'histoire, en l'occurrence la première, c'est ça aussi le prix de cette série.
Oui, et puis on commence au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a des vraies tensions, il y a des vraies complexités. On est sur la disparition progressive de l'Empire britannique, et donc heureusement que la série prend bien le temps de nous expliquer qu'il y a des tensions, on n'est pas juste dans le soap familial, parce que sinon ça pourrait être extrêmement limité. Mais on va la voir confrontée aux contestations des peuples qui veulent s'affranchir de l'Empire britannique, et donc il y a des véritables tensions, y compris d'ailleurs avec le gouvernement, et des tensions entre le pouvoir royal et qu'est-ce qu'il doit garder, et le pouvoir du gouvernement.
Et alors, c'est aussi pour ça peut-être qu'on l'aime cette reine, ou en tout cas qu'on s'y attache, Isabelle Rivère, c'est qu'elle incarne toute une histoire, elle incarne notre histoire sur plusieurs décennies. C'est une formule de Liane Moix qui dit qu'elle est quand même la seule à avoir connu et le Blitzkrieg et Twitter.
Oui, mais c'est, oui, c'est assez juste, le raccourci est hardi, mais oui, oui, c'est...
Ah, vous avez moi, ça.
C'est assez juste, elle a été l'un des grands témoins et l'un des grands acteurs de toute l'histoire, enfin de l'histoire du XXe siècle et donc de ce XXIe siècle commençant. Et j'avais discuté avec un de ses anciens premiers ministres, John Major, qui me disait qu'en fait, elle était considérée par la classe politique britannique comme la meilleure spécialiste au monde en termes de politique nationale et internationale aujourd'hui.
C'est-à-dire que c'est une encyclopédie vivante. Hein. Si on compte un épisode par année, Pierre Lenglet, ça nous fait 5 nouvelles saisons à l'horizon.
Le plan de départ, c'est 10 saisons, non, 6 saisons de 10 épisodes.
Pardon, c'est ça.
6 saisons de 10 épisodes. Là, on est allé jusqu'en 55, on reprend avec la prochaine saison, a priori en 57, si je ne dis pas de bêtises, sur le plan en tout cas. Et évidemment, il y aura un changement d'actrice à un moment. Parce que,
pas pouvoir. Et ça, c'est pour l'automne prochain, c'est ça, c'est pour l'automne 2000, l'automne qui vient.
A priori, Netflix, c'est un mode, on n'a pas la date encore, mais un mode une saison par année, ouais, bien sûr.
D'accord. Et ben, merci beaucoup, Pierre Lenglet, d'être passé nous voir. On trouve toutes vos critiques sur le site de Télérama, hein, Télérama.fr. Quant à nous, nous allons écouter le texte que vous avez choisi, Isabelle Rivère, un discours prononcé par Elisabeth à 21 ans pendant un voyage en Afrique du Sud. Rapidement, d'un mot, pourquoi ce texte-là?
C'est le texte qui est en fait le serment qu'elle prête aux Britanniques, en leur disant qu'elle elle leur dit ce jour-là qu'elle va consacrer sa vie entière à leur service. À 21 ans, c'est quand même inouï. Et c'est un discours qui va être retransmis radiophoniquement sur les ondes du monde entier et qui va être écouté par la princesse Margaret des Pays-Bas qui est aujourd'hui de Danemark pardon qui est aujourd'hui reine du Danemark et qui a toujours dit que ce discours l'avait profondément marqué et surtout profondément influencé.
Eh bien, inspirez-vous-en, jeune carne.
Beaucoup de mes ancêtres ont porté cette devise, cette noble devise. Je sers. Ces mots ont inspiré de nombreux héritiers au trône qui, parvenus à l'âge adulte, ont fait leur acte solennel de dévouement. Je ne peux pas faire tout ce qu'ils ont fait. Mais grâce à la science, je peux faire ce qui n'était possible pour aucun d'entre eux. Je peux adresser mon acte solennel de dévouement à tout un empire. Je voudrais maintenant faire ce dévouement. C'est très simple. Je déclare devant vous que toute ma vie, qu'elle doive être longue ou courte, sera consacrée à votre service et au service de la grande famille impériale dont nous faisons tous partie. Mais je n'aurai la force de mener à bien cette résolution que si vous vous joignez à moi, comme je vous invite maintenant à le faire. Je sais que votre soutien sera indéfectible. Que Dieu m'aide à faire mon vœu et que Dieu bénisse tous ceux qui sont prêts à y participer.
C'était la délicieuse voix de Mégane Fleury que vous entendiez, bretonne, pas britannique, mais bref, on n'est pas loin. En fait, entre la reine et la télévision, Isabelle Rivère, c'est une longue histoire d'amour. Hein, lors de son couronnement en 53 contre la vie de Churchill, elle accepte que son discours soit retransmis à la télévision. Elisabeth II a toujours compris le rôle de l'image, elle a toujours su la maîtriser.
C'est surtout son mari qui l'a compris dès le départ. Ouais. C'est lui qui va être déterminant, effectivement, dans la retransmission de ce couronnement. C'est la première fois qu'un couronnement est retransmis en direct à la télévision dans le monde entier. Et puis, le prince Philippe va surtout être celui qui va permettre aux caméras de rentrer dans la vie quotidienne de la famille régnante, de montrer son intimité. Et ça, c'est vrai que ça va tout changer, hein, en réalité, dans le rapport que la famille régnante va entretenir à partir des années 60 avec l'opinion.
Une communication parfaitement huilée, on le disait. Et comme le disait la mère d'Elisabeth, qu'est-ce que nous pouvons passer comme temps dans la vie à jouer la comédie? À part entre eux, peut-être. Ah non, entre eux, c'était pas de la comédie. Elle était sa muse, elle était sa queen, Queen Bee comme Birkin. Aussi londonienne que parisienne, comme un pont entre deux villes, un pied de chaque côté de la Manche et un trait d'Union Jack, une union mythique, musique et texte de Serge Gainsbourg et la douce voix de Jane Birkin.
C'est un nécropoliste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon à quoi bon ? Un aquaponiste, un modeste guitariste qui n'est jamais dans le ton. À quoi bon ? C'est un aquaponiste, un faiseur de plaisants tristes qui dit toujours à quoi bon ? À quoi bon ? Un aquaponiste, un peu trop idéaliste, qui répète sous tous les tons, à quoi bon ? C'est un aquaponiste, un faiseur de plaisanteries tristes, qui dit toujours à quoi bon ? À quoi bon ? Un aquaponiste, un drôle de je m'en foutiste, qui dit à tort, à raison, à quoi bon ? C'est un aquaponiste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaponiste, qui se fout de tout et persiste, à dire je veux bien mais au fond, à quoi bon. C'est un aquaponiste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaponiste, qui a pas besoin d'oculiste pour voir la merde du monde, à quoi bon. C'est un aquaponiste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaponiste qui me dit le regard triste, toi je t'aime, les autres se sont tous des cons.
Et ben voilà, c'est dit. Jane Birkin, l'aquaponiste, il nous reste quelques minutes à passer ensemble, alors profitons-en.
Dans quel monde on vit ? L'été sur France Inter.
Dans quel monde on vit ? L'émission qui vous parle de vous, de vos amours, de vos galères, de vos étés et non pas de vos hivers. Notre répondeur est à votre disposition, alors n'hésitez pas, appelez-le, faites-le, 01 56 40 55 35. Attention, je répète, 01 56 40 55 35. Racontez-nous vos souvenirs d'été, une rencontre forte, une histoire folle, un moment où les choses, quelles qu'elles soient, ont basculé. Allez-y, racontez-nous, on adore ça. Alors merci, Paul, pour cet été particulier.
Je m'appelle Paul, j'ai 23 ans, je suis étudiant et j'habite à Paris. Mon souvenir d'été qui m'a marqué, donc ça remonte à il y a bientôt 2 ans. À l'époque, donc j'habitais à Berlin où je travaillais. J'avais quitté donc la France il y a 6 mois parce que j'avais trouvé un emploi, mais j'avais aussi quitté ma famille sur des mauvais termes puisque je leur avais révélé mon homosexualité un mois avant. Ça s'était pas super bien passé. Pendant tout ce temps que j'étais à Berlin, je ne parlais plus trop, voire pas du tout d'ailleurs, à mon père surtout, à mes frères, et avec ma mère très rapidement, peut-être 2 fois je pense en 6 mois par mail. Et donc en juin 2015, j'étais à la Gay Pride de Berlin avec des amis qui étaient venus me rendre visite. Et on était à ce moment sur la Grande Avenue, près du Tiergarten, au milieu des ballons, des confettis, des couleurs et des chars, etc., en train de faire la fête et de danser. Et j'avais une amie qui était très à fond sur son téléphone et je comprenais pas trop pourquoi. Enfin, je la voyais un peu insistante, qui voulait qu'on aille jusqu'au bout, à la porte de Brandebourg. Et là, on arrive près de la porte, et je ne sais pas pourquoi elle voulait qu'on attende. Et au bout d'un moment, au milieu de la foule, bah, je vois ma famille, je vois mon père, ma mère, mes frères qui étaient là, à me faire des gestes, et je vois mon père qui portait un t-shirt Proud Dad. Et là, voilà, on les voyait au milieu de la foule, au milieu des couleurs confettis, j'ai tout de suite compris que ces 6 mois sans se parler, que finalement ils avaient changé, surtout mon père avait changé d'avis. Du coup, j'ai couru vers eux et on s'est pris dans les bras. Il n'y a pas eu besoin de dire grand-chose. Je crois que c'était tout de suite. Enfin, moi, je l'ai pardonné tout de suite. Ça a été oublié. Et voilà, on a passé quelques jours ensuite à Berlin. Et ils ont d'ailleurs rencontré mon petit ami de l'époque. Et le souvenir que j'en garde, c'était avant qu'ils partent à l'aéroport. Mon père, qui quand même avait eu des mots très durs pour moi, qui avant de partir me glisse quand même que moi et mon petit ami, on faisait un très beau couple. Et voilà, et depuis cet été, eh ben, on est devenu une famille plus unie que jamais.
Quitte à vivre avec son temps, quitte à se mettre au goût du jour, Isabelle Rivère, la monarchie britannique est-elle gay-friendly?
La monarchie britannique est totalement 100% gay-friendly. Il y a, je ne sais pas trop comment répondre à...
Est-ce qu'on peut imaginer un jour un coming out à Buckingham?
Oui, pourquoi pas. Enfin, le cas n'est pas encore produit. Enfin,
présenté
à ma connaissance.
Vous
mais
pensez
oui,
que ça
oui,
veut dire qu'aucun membre de la famille royale ni...
Je ne sais pas.
Ça, ben voilà. Effectivement, il n'y a pas eu de coming out jusque-là. Est-ce qu'aujourd'hui...
À ma connaissance, il n'y a pas eu de coming out, mais je ne vois pas ce qui aujourd'hui l'empêcherait.
C'est vrai?
Si le cas...
Vraiment?
Oui. Vraiment, je
le protocole, par exemple, ne dit rien là-dessus?
Absolument rien. Non, pas du tout. Non. Un roi pourrait monter sur le trône en étant célibataire, entre guillemets, vous voyez, en n'étant pas marié.
Ah, en étant célibataire.
En n'étant pas marié et en ayant un homme dans sa vie, je pense qu'aujourd'hui, ce serait possible. Je pense qu'aujourd'hui, ça le serait. Je vous le dis franchement.
Avec les générations qui arrivent. Des rumeurs, j'imagine, ont hanté le palais. Est-ce que ça a longtemps pu être un problème? Ça, est-ce qu'il y a eu des, de même qu'il y a eu des amours clandestines, est-ce qu'il y a eu des amours homosexuels clandestines comme un secret de Polichinelle que tout le monde se repassait de bouche à oreille? Est-ce que ça s'est arrivé?
Alors comme un secret de Polichinelle, non. Enfin, il y en a certainement eu. Maintenant, la monarchie est une institution qui évolue avec son époque. Donc pendant longtemps, de même que au sein même de la société britannique, il était difficile d'afficher ou en tout cas ou même de parler même en cercle restreint de son homosexualité. Aujourd'hui dans la société britannique tout a changé et je pense que si le cas devait se présenter, les choses se feraient beaucoup plus simplement qu'on ne le croit.
Et peut-être que demain la reine Elisabeth II portera un chapeau avec le rainbow flag. Ce sera peut-être un message.
Mais peut-être.
Qui sait.
Il faut qu'elle voie ça avec son habilleux, sa couturière, Angela Kelly, alors, qui est celle qui lui dessine toutes ses tenues à message.
Votre été particulier à vous, Isabelle Rivère, vous ramène à votre enfance du côté d'Antibes. Est-ce que vous pouvez nous raconter?
Oui, bon, moi c'est beaucoup moins fort que ce que vient de vous raconter votre auditeur. Ça, mais vous m'avez posé la question.
Ah ben évidemment.
Donc, moi, l'objet emblématique en fait de mes...
Oui, il est devant vous. Oui. Est-ce que vous pouvez nous le décrire?
Alors c'est un phare, donc évidemment vous m'aviez demandé de venir avec un objet emblématique, c'était un petit peu...
J'avoue qu'en préparant l'émission, quand vous nous avez dit ce sera un phare, mon objet, on s'est dit ça va être compliqué.
Non, en fait, c'est le phare de la Garoupe qui est intimement lié aux étés qu'enfant je passais à Antibes avec ma grand-mère, enfin avec mes grands-parents, mais particulièrement avec ma grand-mère. Et tous les soirs, ma grand-mère installait deux chaises longues sur la terrasse et nous regardions le faisceau lumineux du phare de la Garoupe balayer le ciel étoilé d'Antibes et nous restions là. Je mettais ma main dans la sienne et on restait là des heures. Voilà, je vous parle de ma grand-mère parce qu'elle a été la lumière de mon enfance. Vous m'avez posé la question. C'est très personnel, c'est vraiment le type de choses dont je ne parle jamais. Mais voilà, elle était la lumière de mon enfance et il y a ce phare qui avait cette lumière lui aussi. Voilà.
Quelle serait la lumière qui vous guidera aujourd'hui?
Il y a beaucoup de gens qui me sont chers, des gens. Ça c'est vraiment très 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 intime. Ça, j'ai pas très très. Voilà, mais je pense qu'il.
La lumière de la reine Elisabeth, vous savez.
Non, enfin non. Voilà, j'ai beaucoup d'admiration. Hein, j'ai un infini respect pour cette femme, mais moi j'ai eu la chance de grandir accompagnée par une lumière qui était celle de ma grand-mère, qui me tenait la main et qui, je pense, de là où elle est, continue à me la tenir, en fait.
Eh bien, merci Isabelle Rivère d'avoir partagé ses souvenirs avec nous. Merci d'avoir éclairé pour nous la monarchie britannique sous un autre jour. Je redonne le titre de votre livre, Charles et Camilla, une histoire anglaise, c'est chez Fayard. Restez sur France Inter. Oui, restez-y jusqu'à demain, 9h. On a rendez-vous, vous vous souvenez? D'ici là, le podcast, c'est en illimité. Alors, vite, vite, vite sur le site de France Inter, franceinter.fr.